Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons, nous solennisons plutôt la fête des rois mages, fête très ancienne, plus ancienne d'ailleurs que la fête de Noël. Noël est tardif par rapport à la fête de l'Épiphanie, ces rois mages qui viennent de très loin pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, ce furent les bergers qui avaient la révélation. Ils savaient qu'un Messie allait naître. Ils étaient dans les parages. Et pour les bergers, ce sont des anges qui leur annoncent cette nouvelle extraordinaire. Un sauveur vous est né. Mais pour les mages, ce n'est pas les anges qui interviennent pour annoncer la venue, la naissance du Messie, mais un astre. Ils étaient au courant de ces astres. Ils lisaient dans le ciel, les étoiles du ciel. C'est une belle science que celle des astres. Et là, ils ont vu une étoile qui n'était pas normale. Ils ne la connaissaient pas. Mais quand ils l'ont vue, ils ont dit, c'est l'étoile du grand roi. Donc vous voyez, même chez les païens, il y a cette connaissance que Dieu est présent et qu'il va nous sauver. Et c'est pour cela qu'ils vont faire ce long voyage jusqu'à Jérusalem, parce qu'effectivement, à ce moment-là, l'étoile disparaît. Ils s'enquièrent du lieu, et c'est ce qu'ils disent à Hérode. Hérode est très troublé de cette science, de cette connaissance. Et pourtant, il doit savoir. Il doit savoir ce qui se passe. Alors il fait ouvrir les Saintes Écritures, et dans Michée, un petit prophète, un des 12 petits prophètes, effectivement, c'est bien marqué que Bethléem n'est pas la plus petite des terres de Juda, mais au contraire la plus grande, car va sortir de Bethléem le Messie tant attendu, annoncé par les petits et les grands prophètes, et tous les fidèles de l'Ancien Testament savaient que naîtrait le Messie. Et à Bethléem, maison du pain, comme celle-ci est étonnant. Mais pour des croyants, ce n'est pas étonnant, car la maison du pain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Bethléem. Le pain va naître à Bethléem, notre Seigneur Jésus-Christ, ce pain eucharistique, pour la nourriture de nos âmes. Eh bien, chers frères, je voudrais profiter de cette belle fête pour nous aider à prier les mystères du chapelet, les mystères joyeux, avec les mages. Ça va peut-être nous aider quelques idées pour mieux prier le chapelet durant ce temps de Noël, parce que comme sa prière est répétitive, elle peut nous paraître un petit peu austère dans cette répétition des Ave Maria. Et me semble-t-il, on peut prier les différents mystères avec les mystères actuels. Et là, ce sont les mages qui sont bien présents pour nous aider à prier les mystères joyeux. À travers les 5 mystères joyeux, tâchons de voir rapidement les fruits de ces mystères, pas les mystères eux-mêmes. La nativité, bien sûr, mais les 4 autres mystères, les mages ne sont pas là. Donc, dans ces mystères, les fruits que nous retirons de ces mystères. L'annonciation, c'est l'humilité que nous demandons. Les mages ont été très humbles. Eux, ces grands rois de la terre, vont accepter le moyen que Dieu leur donne pour arriver à lui. Ce n'est pas une apparition extraordinaire d'un Dieu en majesté qui se montre pour ces mages, mais un astre, somme toute très minime par rapport à Dieu. Il n'empêche que dans cet appel, qu'ils considèrent comme un vrai appel de Dieu, un véritable appel de Dieu, ils s'humilient, ils acceptent le moyen que Dieu leur donne. Ce n'est pas eux qui cherchent le moyen pour aller à Dieu, c'est Dieu qui leur donne un moyen, et que font-ils? Ils l'acceptent. Quelle leçon pour nous. Accepter les moyens que le bon Dieu nous donne. Pour les mages, c'était un astre. C'était le moyen, et il n'y a pas eu d'autre moyen. Comme ça, le bon Dieu donne à chacun d'entre nous un moyen pour arriver à lui. Et dans toute conversion, dans tout appel de Dieu pour nos âmes, il y a quelque chose. Pour eux, c'était l'astre. l'astre du grand roi, pour le connaître et ensuite pour l'aimer. Et on voit que avec cette arrivée à Bethléem, que font-ils ? Ils l'adorent. Ils présentent leurs offrandes et ils l'adorent. Ils l'adorent. Dans cette visitation, le deuxième mystère joyeux, c'est la visitation. Et le fruit de ce mystère, c'est la charité fraternelle. Durant ce voyage, qui était long, ils viennent de l'Orient, les mages sont parvenus qu'à Troie. Mais ils avaient leur troupeau, leur chameau évidemment, et puis leur suite. Un roi ne vient pas tout seul. Il y a les valets, il y a l'accompagnement, la cuisine ambulante, etc. Il a fallu pratiquer la charité fraternelle, les uns par rapport aux autres, pour que personne ne manque de quoi que ce soit. Et comme c'était des rois, un bon roi veille à ses sujets. Donc certainement, les mages ont dû se mettre en quatre, pourrait-on dire, pour que chacun ait suffisamment, de façon équitable, durant tout ce voyage, la charité fraternelle. Quelle leçon aussi dans notre vie quotidienne, pratiquer la charité les uns vers les autres. Aujourd'hui, on fête la Sainte Famille. La messe n'est pas celle de la Sainte Famille, mais vous pouvez aussi lire les textes de la Sainte Famille. Eh bien, Saint Paul recommande la charité les uns vis-à-vis des autres. La charité fraternelle. S'oublier soi-même pour le bien du prochain. Ne pas tirer la couverture à soi. Surtout en hiver, il fait froid. Donc, pratiquer la charité pour que le prochain ait chaud. Ce n'est pas seulement physique, c'est surtout spirituel. S'oublier, se donner, se renoncer pour que le prochain sente cette charité qui anime notre cœur, notre âme. Donc dans cette charité, il y a la patience, beaucoup de douceur, d'abnégation avec cette visitation. Donc les mages ont pratiqué cette charité les uns vis-à-vis des autres et aussi envers leur sujet qui les accompagnait pour aller à Bethléem. La nativité, troisième mystère joyeux, cette nativité. Les mages ont vu un petit enfant avec Notre-Dame et Saint-Joseph très pauvres. Eux ont apporté de grandes richesses. Et que font-ils de ces grandes richesses ? Ils s'en dépouillent. Ils s'appauvrissent. Ils n'attendent pas de retour. C'est ça un vrai cadeau. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, ce n'est pas pour avoir un cadeau supérieur encore, non. On s'appauvrit simplement. Sinon, c'est de l'égoïsme. Si je fais un cadeau à quelqu'un pour qu'il fasse un cadeau, c'est un peu pipé. Les dés sont pipés. Je vais absolument avoir un cadeau en retour. Non, ce n'est pas ça la charité. Le cadeau qu'il faut à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un cadeau généreux. Ils s'appauvrissent en donnant énormément. L'or, l'encens, la myrrhe. Et à travers ces beaux cadeaux, eh bien, c'est tout leur cœur qu'ils donnent. Par l'or, ils reconnaissent que Jésus est roi. L'encens, il est Dieu. On offre l'encens à Dieu à la messe. On encense l'autel. Parce que Jésus est Dieu. Et puis la myrrhe, en vue de sa sépulture. Donc, ces mages, qui étaient païens, ont eu la foi. La foi. Ils ont préparé des présents dignes de celui qu'ils allaient adorer. Ils s'appauvrissent. Et qu'est-ce que le bon Dieu fait en retour ? Il les enrichit. Et à chaque fois, c'est comme ça. Quand on donne au bon Dieu quelque chose, quand on se donne au bon Dieu, le bon Dieu fait encore davantage. Mais comme c'est extraordinaire, les cadeaux qu'ils font à ce petit enfant. Cet enfant ne paye pas de mine. Un petit bébé. C'est le roi. Ils voient aussi Dieu dans cet enfant. Et ils savent qu'un jour, 33 ans plus tard, ça, ils ne savent pas la date de sa mort, mais c'est pour sa sépulture, la myrrhe, dont on embaume les défunts. Quelle richesse, quel trésor ne font-ils pas à cet enfant qui vient de naître ? Quatrième mystère joyeux, c'est la présentation. Dans ce mystère, on demande deux choses, l'obéissance et la pureté. Pureté d'intention. Ils ont eu un cœur droit. Ils n'ont pas un cœur biaisé, tordu, qui cherche les biens pour lui-même. dans un cœur généreux, la pureté d'intention. Notre Seigneur dira plus tard, si ton œil est droit, tout ton corps sera illuminé. Si ton œil est droit. L'intention, c'est l'œil, le regard simple, pas un regard tordu, qui cherche pour soi-même les réalités terrestres, surtout terrestres. La pureté d'intention. Si ton œil est droit, tout ton corps sera illuminé. Et puis, l'obéissance. Ils ont obéi aveuglément à cette étoile. Aveuglément. Et ça, c'est la foi. On n'a pas l'évidence des biens futurs, mais on croit parce que Dieu a dit. Et Dieu leur a parlé par un astre, quelque chose de matériel, extraordinaire, mais somme toute matériel. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, cette étoile disparaît. La foi aurait pu disparaître également. On s'est trompé. On s'est fait illusion. On y a cru parce qu'on était plusieurs et chacun eh bien, alimentait l'espérance de l'autre. Mais c'est vain. On retourne chez nous. Imaginez que ça soit passé comme ça. Il n'aurait pas été à Bethléem. On s'est fait tromper par ce qu'on croyait être Dieu. Non, ils cherchent, ils s'enquièrent et ils auront la réponse. Et lorsque cette étoile réapparaît, que se passe-t-il? Ils sont transportés d'allégresse, car ils savent que Dieu ne les a pas trompés. Et pour nous aussi, parfois dans la foi, nous avons des obscurités, peut-être parfois même comme des doutes. Est-ce que Dieu a dit vrai? Est-ce que Dieu ne se trompe pas? Est-ce que Dieu est vraiment là malgré les épreuves, malgré les contradictions? La foi absolue, la foi parce que Dieu a révélé. Eh bien, ces mages, ces rois mages, venus de bien loin, ont une foi extraordinaire. Quelle leçon pour nous! Quelle leçon pour nous! N'oublions pas de leur demander la foi, la force de la foi. Dans nos doutes, dans nos désillusions, parfois peut-être, dans nos marasmes, etc. Parce que ces mages sont saints. L'histoire raconte que c'est l'apôtre saint Thomas qui, plus tard, les évangélisera. Et il les sacrera évêques, martyrs, ces trois rois mages, martyrs à Cologne. On vénère leur relique à Cologne, en Allemagne. Ils ont la foi. Et après ça, ils ont prêché l'évangile. Quelle merveille! Ils ont prêché l'évangile. Mort pour la foi. L'obéissance. Avec une étoile. Et enfin, mais j'ai déjà un petit peu anticipé avec ce que j'ai dit au quatrième mystère. Ce n'est pas grave, je vais répéter. Comme les professeurs en classe, il faut répéter. Et parfois, il reste quelque chose. Donc, faisons pareil. Jésus est retrouvé au temple. Cinquième mystère joyeux. Et on demande la volonté du bon Dieu, faire la volonté du bon Dieu à travers ces retrouvailles de l'enfant Jésus au temple. Eh bien, ils ont retrouvé l'étoile. Elle n'était pas Dieu. Mais à travers cette étoile, ils ont vu la volonté de Dieu et ils ont continué leur route. Et quand je fais la volonté du bon Dieu, alors mon âme est dans l'allégresse. L'allégresse. Quatre mots pour exprimer la joie immense dont ils ont été les réceptacles. Gavisun, gaudio, magno, valde. Un mot ne suffit pas. Il faut quatre mots latins pour exprimer la joie extraordinaire dont ils sont épris. Parce que c'est un sentiment qui fait éclater leur cœur. Ils ont retrouvé notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce aussi. Prions pour que cette grâce soit pour nous tous, mes bien chers frères. Retrouver notre Seigneur Jésus-Christ, c'est magnifique. Perdre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la catastrophe absolue. Ils avaient perdu cette étoile. Plus tard, 12 ans plus tard, ce sera Notre-Dame et Saint-Joseph qui vont perdre Jésus au temple. Que font-ils? Ils cherchent Jésus. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé Jésus, ils le cherchent. Faisons de même. Que toute notre vie soit une recherche avide, sérieuse, studieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas simplement d'étudier notre Seigneur Jésus-Christ. Étudier, ça c'est pour l'intelligence. Connaître notre Seigneur Jésus-Christ, c'est insuffisant. C'est bien, mais c'est insuffisant. Parfois, certains s'arrêtent à la connaissance de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la foi pour autant. Il faut que cette connaissance débouche à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont adoré notre Seigneur Jésus-Christ. Les rois mages sont un bel exemple pour notre vie chrétienne, mes bien chers frères. Et Jésus est leur lumière. Et leur lumière. Demandons au bon Dieu, par les rois mages, de nous éclairer et que cette lumière, que cet éclairage que Jésus-Christ fait à nos âmes soit une lumière de charité, comme la flamme qui non seulement éclaire, mais réchauffe. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.